Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Chateaubriand. Suite. Enregistré par Christiane Johan. Section 14. Itinéraire, deuxième partie. Voyage de l'archipel, de l'Anatolie et de Constantinople. Je changeais de théâtre. Les îles que j'allais traverser étaient, dans l'Antiquité, une espèce de pont jeté sur la mer pour joindre la Grèce d'Asie à la véritable Grèce. Libres ou sujettes, attachées à la fortune de Sparte ou d'Athènes, aux destinées des Perses, à celles d'Alexandre et de ses successeurs, elles tombèrent sous le joug romain. Tour à tour arrachées au bas empire par les Vénitiens, les Génois, les Catalans, les Napolitains, elles eurent des princes particuliers et même des ducs qui prirent le titre général de duc de l'archipel. Enfin, les Soudans de l'Asie descendirent vers la Méditerranée. Et pour annoncer à celle-ci sa future destinée, ils se firent apporter de l'eau de la mer, du sable et une rame. Les îles furent néanmoins subjuguées les dernières, mais enfin elles subirent le sort commun. Et la bannière latine, chassée de proche en proche par le croissant, ne s'arrêta que sur le rivage de Corfou. De cette lutte des Grecs, des Turcs et des Latins, il résulta que les îles de l'archipel furent très connues dans le Moyen-Âge. Elles étaient sur la route de toutes ces flottes qui portaient des armées ou des pèlerins à Jérusalem, à Constantinople, en Égypte, en Barbarie. Elles devinrent les stations de tous ces vaisseaux génois et vénitiens qui renouvelèrent le commerce des Indes par le port d'Alexandrie. Aussi retrouve-t-on les noms de Chios, de Lesbos, de Rhodes à chaque page de la Byzantine. Et tandis qu'Athènes et Lacédémone étaient oubliées, on savait la fortune du plus petit écueil de l'archipel. De plus, les voyages de ces îles sont sans nombre et remontent jusqu'au 7e siècle. Il n'y a pas un pèlerinage en Terre Sainte qui ne commence par une description de quelques rochers de la Grèce. Dès l'an 1555, Bellon donna en français ses observations de plusieurs singularités retrouvées en Grèce. Le voyage de Tournefort est entre les mains de tout le monde. La description exacte des îles de l'archipel par le flamand Dapper est un travail excellent. Il n'est personne qui ne connaisse les tableaux de M. de Choiseul. Notre traversée fut heureuse. Le 30 août à 8 heures du matin, nous entrâmes dans le port de Zéa. Il est vaste, mais d'un aspect désert et sombre, à cause de la hauteur des terres dont il est environné. On aperçoit sous les rochers du rivage que quelques chapelles en ruine et les magasins de la douane. Le village de Zéa est bâti sur la montagne, à une lieue du côté du Levant, et il occupe l'emplacement de l'ancienne Carthée. Je n'aperçus en arrivant que 3 ou 4 felouks grecs, et je perdis tout espoir de retrouver mon navire autrichien. Je laissai Joseph au port, et je me rendis au village avec le jeune Athénien. La montée est rude et sauvage. Cette première vue d'une île de l'archipel ne me charma pas infiniment, mais j'étais accoutumé au mécompte. Zéa, bâti en amphithéâtre sur le penchant inégal d'une montagne, n'est qu'un village malpropre et désagréable, mais assez peuplé. Les ânes, les cochons, les poules vous y disputent le passage des rues. Il y a une si grande multitude de coqs, et ces coqs chantent si souvent et si haut qu'on en est véritablement étourdi. Je me rendis chez M. Pangali, vice-consul français à Zéa. Je lui dis qui j'étais, d'où je venais, où je désirais aller, et je le priai de noliser une barque pour me porter à Chios ou à Smyrne. M. Pangali me reçut avec toute la cordialité possible. Son fils descendit au port, il y trouva un caïque qui retournait à Tinos et qui devait mettre à la voile le lendemain. Je résolus d'en profiter, cela m'avançait toujours un peu sur ma route. Le vice-consul voulut me donner l'hospitalité au moins pour le reste de la journée. Il avait 4 filles, et l'aînée était au moment de se marier, on faisait déjà les préparatifs de la noce. Je passai donc des ruines du temple de Sonium à un festin. C'est une singulière destinée que celle du voyageur. Le matin, il quitte un hôte dans les larmes, le soir, il en trouve un autre dans la joie, il devient le dépositaire de 1000 secrets. Ibrahim m'avait conté à Sparte tous les accidents de la maladie du petit Turc. J'appris à Zéa l'histoire du gendre de M. Pangali. Au fond, y a-t-il rien de plus aimable que cette naïve hospitalité? N'êtes-vous pas trop heureux qu'on veuille bien vous accueillir ainsi dans les lieux où vous ne trouveriez pas le moindre secours? La confiance que vous inspirez, l'ouverture de cœur qu'on vous montre, le plaisir que vous paraissez faire et que vous faites, sont certainement des jouissances très douces. Une autre chose me touchait encore beaucoup. C'était la simplicité avec laquelle on me chargeait de diverses commissions pour la France, pour Constantinople, pour l'Égypte. On me demandait des services comme on m'en rendait. Mes hôtes étaient persuadés que je ne les oublierais point et qu'ils étaient devenus mes amis. Je sacrifiais sur le champ à M. Pengali les ruines d'Ioulis où j'étais d'abord résolu d'aller et je me déterminais comme Ulysse à prendre part au festin d'Aristonous. Zéa, l'ancienne Chéos, fut célèbre dans l'Antiquité par une coutume qui existait aussi chez les Celtes et que l'on a retrouvée parmi les sauvages de l'Amérique. Les vieillards de Chéos se donnaient la mort. Aristée, dont Virgile a chanté les abeilles, ou un autre Aristée, roi d'Arcadie, se retira à Chéos. Ce fut lui qui obtint de Jupiter les vents éthésiens pour modérer l'ardeur de la canicule. Erasistrate, le médecin, et Ariston, le philosophe, étaient de la ville d'Ioulis, ainsi que Simonide et Bacchylides. Nous avons encore d'assez mauvais vers du dernier dans les Poetae Graeci Minores. Simonide fut un beau génie, mais son esprit était plus élevé que son cœur. Il chanta Hipparque, qui l'avait comblé de bienfaits, et il chanta encore les assassins de ce prince. Ce fut apparemment pour donner cet exemple de vertu que les justes dieux du paganisme avaient préservé Simonide de la chute d'une maison. « Il faut s'accommoder au temps, » dit le sage. Aussitôt les ingrats secouent le poids de la reconnaissance, les ambitieux abandonnent le vaincu, les poltrons se rangent au parti du vainqueur. Merveilleuse sagesse humaine, dont les maximes, toujours superflues pour le courage et la vertu, ne servent que de prétexte au vice et de refuge aux lâchetés du cœur. Le commerce de Zéa consiste aujourd'hui dans les glands du Vélani, que l'on emploie dans les teintures. La gaze de soie, en usage chez les anciens, avait été inventée à Chéos. Les poètes, pour peindre sa transparence et sa finesse, l'appelaient du « vent tissu ». Zéa fournit encore de la soie. Les bourgeois de Zéa s'attroupent ordinairement pour filer de la soie, dit Tournefort. Ils s'assaient sur les bords de leur terrasse afin de laisser tomber leur fuseau jusqu'au bas de la rue, qu'ils retirent ensuite en roulant le fil. Nous trouvâmes l'évêque grec en cette posture. Il demanda quels gens nous étions et nous fit dire que nos occupations étaient bien frivoles si nous ne cherchions que des plantes et des vieux marbres. Nous répondîmes que nous serions plus édifiés de lui voir à la main les œuvres de saint Chrysostome ou de saint Basile que le fuseau. J'avais continué à prendre du quinquennat 3 fois par jour. La fièvre n'était point revenue, mais j'étais restée très faible, et j'avais toujours une main et une joue noircies par le coup de soleil. J'étais donc un convive très gai de cœur, mais fort triste de figure. Pour n'avoir pas l'air d'un parent malheureux, je m'ébaudissais à la noce. Mon hôte me donnait l'exemple du courage. Il souffrait dans ce moment même des maux cruels. Et au milieu du chant de ses filles, la douleur lui arrachait quelquefois des cris. Tout cela faisait un mélange de choses extrêmement bizarres. Ce passage subit du silence des ruines, au bruit d'un mariage, était étrange. Tant de tumulte à la porte du repos éternel, tant de joie auprès du grand deuil de la Grèce. Une idée me faisait rire. Je me représentais mes amis occupés de moi en France. Je les voyais me suivre en pensée, s'exagérer mes fatigues, s'inquiéter de mes périls. Ils auraient été bien surpris s'ils m'eussent aperçu tout à coup le visage à demi brûlé, assistant dans une des Cyclades à une noce de village, applaudissant aux chansons de Mademoiselle Pengali qui chantait en grec « Ah, vous dirai-je, maman », etc. Tandis que M. Pengali poussait des cris que les coqs s'égosillaient et que les souvenirs d'Ioulis, d'Aristée, de Simonide étaient complètement effacés. C'est ainsi qu'en débarquant à Tunis, après une traversée de 58 jours qui fut une espèce de naufrage continuel, je tombai chez M. Devoys, au milieu du carnaval. Au lieu d'aller méditer sur les ruines de Carthage, je fus obligé de courir au bal de m'habiller en turc et de me prêter à toutes les folies d'une troupe d'officiers américains pleins de gaieté et de jeunesse. Le changement de scène à mon départ de Zéa fut aussi brusque qu'il l'avait été à mon arrivée dans cette île. À 11 heures du soir, je quittai la joyeuse famille, je descendis au port, je m'embarquai de nuit par un gros temps dans un caïque dont l'équipage consistait en 2 mousses et 3 matelots. Joseph, très brave à terre, n'était pas aussi courageux sur la mer. Il me fit beaucoup de représentations inutiles. Il lui fallut me suivre et achever de courir ma fortune. Nous allions vent large. Notre esquif penché sous le poids de la voile avait la quille à fleur d'eau. Les coups de la lame étaient violents. Les courants de l'Eubée rendaient encore la mer plus houleuse. Le temps était couvert. Nous marchions à la lueur des éclairs et à la lumière phosphorique des vagues. Je ne prétends point faire valoir mes travaux, qui sont très peu de choses, mais j'espère cependant que quand on me verra m'arracher à mon pays et à mes amis, supporter la fièvre et les fatigues, traverser les mers de la Grèce dans de petits bateaux, recevoir les coups de fusil des Bédouins, et tout cela par respect pour le public, et pour donner à ce public un ouvrage moins imparfait que le génie du christianisme, j'espère, dis-je, qu'on me saura quelque gré de mes efforts. Quoi qu'en dise la fable de l'aigle et du corbeau, rien ne porte bonheur comme d'imiter un grand homme. J'avais fait le César, quid times, caesarem veis, et j'arrivais où je voulais arriver. Nous touchâmes à Tino, le 31 à 6 heures du matin. Je trouvai à l'instant même une felouque hydriote qui partait pour Smyrne et qui devait seulement relâcher quelques heures à Kio. Le caïque me mit à bord de la felouque et je ne descendis pas même à terre. Tino, autrefois Ténos, n'est séparé d'Andros que par un étroit canal. C'est une île haute qui repose sur un rocher de marbre. Les Vénitiens la possédèrent longtemps. Elle n'est célèbre dans l'Antiquité que par ses serpents. La vipère avait pris son nom de cette île. Monsieur de Choiseul a fait une description charmante des femmes de Tino. Ces vues du port de San Nicolo m'ont paru d'une rare exactitude. La mer, comme disent les marins, était tombée et le ciel s'était éclairci. Je déjeunais sur le pont en attendant qu'on levât l'ancre. Je découvrais à différentes distances toutes les Cyclades. Scyros, où Achille passa son enfance, Délos, célèbre par la naissance de Diane et d'Apollon, par son palmier, par ses fêtes, Naxos, qui me rappelait Ariane, Thésée, Bacchus et quelques pas charmantes des études de la nature. Mais toutes ces îles si riantes autrefois, ou peut-être si embellies par l'imagination des poètes, n'offrent aujourd'hui que des côtes désolées et arides. De tristes villages s'élèvent en pain de sucre sur des rochers. Ils sont dominés par des châteaux plus tristes encore et quelquefois environnés d'une double ou triple enceinte de murailles. On y vit dans la frayeur perpétuelle des Turcs et des pirates. Comme ces villages fortifiés tombent cependant en ruine, ils font naître à la fois dans l'esprit du voyageur l'idée de toutes les misères. Rousseau dit quelque part qu'il eût voulu être exilé dans une des îles de l'archipel. L'éloquent sophiste se fut bientôt repenti de son choix. Séparé de ses admirateurs, relégué au milieu de quelques Grecs grossiers et perfides, il n'aurait trouvé dans des vallons brûlés par le soleil ni fleurs, ni ruisseaux, ni ombrages. Il n'aurait vu autour de lui que des bouquets d'oliviers, des rochers rougeâtres, tapissés de sauge et de baumes sauvages. Je doute qu'il eût désiré longtemps continuer ses promenades au bruit du vent et de la mer le long d'une côte inhabitée. Nous appareillâmes à midi. Le vent du nord nous porta assez rapidement sur Scio. Mais nous fûmes obligés de courir des bordées entre l'île et la côte d'Asie pour embouquer le canal. Nous voyions des terres et des îles tout autour de nous, les unes rondes et élevées comme Samos, les autres longues et basses comme des capes du golfe d'Éphèse. Ces terres et ces îles étaient différemment colorées selon le degré d'éloignement. Notre felouque, très légère et très élégante, portait une grande et unique voile taillée comme l'aile d'un oiseau de mer. Ce petit bâtiment était la propriété d'une famille. Cette famille était composée du père, de la mère, du frère et de 6 garçons. Le père était le capitaine, le frère le pilote et les fils étaient les matelots. La mère préparait le repas. Je n'ai rien vu de plus gai, de plus propre et de plus leste que cet équipage de frères. La felouque était lavée, soignée et parée comme une maison chérie. Elle avait un grand chapelet sur la poupe, avec une image de la Panagia surmontée d'une branche d'olivier. C'est une chose assez commune dans l'Orient de voir une famille mettre ainsi toute sa fortune dans un vaisseau, changer de climat sans quitter ses foyers, et se soustraire à l'esclavage en menant sur la mer la vie des Scythes. Nous vîmes mouiller pendant la nuit au port de Kio. Fortuné, patrie d'Homère, dit Fénelon, dans les aventures d'Aristonous, chef-d'œuvre d'harmonie et de goût antique. Je m'étais profondément endormi et Joseph ne me réveilla qu'à 7 heures du matin. J'étais couché sur le pont. Quand je vins à ouvrir les yeux, je me crus transporté dans le pays des fées. Je me trouvais au milieu d'un port plein de vaisseaux, ayant devant moi une ville charmante, dominée par des monts dont les arêtes étaient couvertes d'oliviers, de palmiers, de lentisques et de térébintes. Une foule de Grecs, de Francs et de Turcs était répandue sur les quais, et l'on entendait le son des cloches. Je descendis à terre, et je m'informai s'il n'y avait point de consul de notre nation dans cette île. On m'enseigna un chirurgien qui faisait les affaires des Français. Il demeurait sur le port. J'allai lui rendre visite, il me reçut très poliment. Son fils me servit de cicérone pendant quelques heures pour voir la ville qui ressemble beaucoup à une ville vénitienne. Baudran, Ferrari, Tournefort, Dapper, Chandler, M. de Choiseul et 1000 autres géographes et voyageurs ont parlé de l'île de Kio. Je renvoie donc le lecteur à leurs ouvrages. Je retournai à 10 heures à la felouque. Je déjeunai avec la famille. Elle dansa et chanta sur le pont autour de moi en buvant du vin de Kio qui n'était pas du temps d'Anacréon. Un instrument peu harmonieux animait les pas de mes hôtes. Il n'a retenu de la lyre antique que le nom et il est dégénéré comme ses maîtres. Lady Craven en a fait la description. Nous sortîmes du port le 1er septembre à midi. La brise du nord commençait à s'élever et elle devint en peu de temps très violente. Nous essayâmes d'abord de prendre la passe de l'ouest entre Kio et les îles Spalmodor, qui ferment le canal quand on fait voile pour Metlin ou pour Smyrne. Mais nous ne pûmes doubler le cap Delfino. Nous portâmes à l'est et nous allongeâmes la bordée jusque dans le port de Chesme. De là, revenant sur Kio, puis revenant sur le mont Mimas, nous parvâmes enfin à nous élever au cap Karaburun, à l'entrée du golfe de Smyrne. Il était 10 heures du soir. Le vent nous manqua et nous passâmes la nuit en calme sur la côte d'Asie. Le 2, à la pointe du jour, nous nous éloignâmes de terre à la rame afin de profiter de l'imbas aussitôt qu'il commencerait à souffler. Il parut de meilleure heure que de coutume. Nous eûmes bientôt passé les îles de Dourlar et nous vîmes raser le château qui commande le fond du golfe ou le port de Smyrne. J'aperçus alors la ville dans le lointain, au travers d'une forêt de mâts de vaisseaux. Elle paraissait sortir de la mer car elle est placée sur une terre basse et une nid que domine au sud-est des montagnes d'un aspect stérile. Joseph ne se possédait pas de joie. Smyrne était pour lui une seconde patrie. Le plaisir de ce pauvre garçon m'affligeait presque en me faisant d'abord penser à mon pays, en me montrant ensuite que l'axiome « ubi bene, ibi patria » n'est que trop vrai pour la plupart des hommes. Joseph, debout près de moi sur le pont, me nommait tout ce que je voyais à mesure que nous avancions. Enfin, nous amenâmes la voile, et laissant encore quelque temps filer notre felouque, nous donnâmes fond par 6 brasses, en dehors de la première ligne des vaisseaux. Je cherchais des yeux mon navire de Trieste, et je le reconnus à son pavillon. Il était mouillé près de l'échelle des Francs ou du quai des Européens. Je m'embarquai avec Joseph dans un caïque qui vint le long de notre bord et je me fis porter au bâtiment autrichien. Le capitaine et son second étaient à terre. Les matelots me reconnurent et me reçurent avec de grandes démonstrations de joie. Ils m'apprirent que le vaisseau était arrivé à Smyrne le 18 août, que le capitaine avait louvoyé 2 jours pour m'attendre entre Zéa et le cap Sunium et que le vent l'avait ensuite forcé à continuer sa route. Ils ajoutèrent que mon domestique, par ordre du consul de France, m'avait arrêté un logement à l'auberge. Je vis avec plaisir que mes anciens compagnons avaient été aussi heureux que moi dans leur voyage. Ils voulurent me descendre à terre. Je passai donc dans la chaloupe du bâtiment, et bientôt nous abordâmes le quai. Une foule de porteurs s'empressèrent de me donner la main pour monter. Smyrne, où je voyais une multitude de chapeaux, m'offrait l'aspect d'une ville maritime d'Italie dont un quartier serait habité par des orientaux. Joseph me conduisit chez M. Chauderlose, qui occupait alors le consulat français de cette importante échelle. J'aurai souvent à répéter les éloges que j'ai déjà faits de l'hospitalité de nos consuls. Je prie mes lecteurs de me le pardonner, car si ces redites les fatiguent, je ne puis toutefois cesser d'être reconnaissant. M. Chauderlose, frère de M. de Laclos, m'accueillit avec politesse, mais il ne me logea point chez lui parce qu'il était malade, et que Smyrne offre d'ailleurs les ressources d'une grande ville européenne. Nous arrangeâmes sur le champ toute la suite de mon voyage. J'avais résolu de me rendre à Constantinople par terre afin d'y prendre des firmans et de m'embarquer ensuite avec les pèlerins grecs pour la Syrie. Mais je ne voulais pas suivre le chemin direct et mon dessein était de visiter la plaine de Troie en traversant le mont Ida. Le neveu de M. Chauderlose, qui venait de faire une course à Éphèse, me dit que les défilés du Gargare étaient infestés de voleurs et occupés par des agas plus dangereux encore que les brigands. Comme je tenais à mon projet, on envoya chercher un guide qui devait avoir conduit un Anglais aux Dardanelles par la route que je voulais tenir. Ce guide consentit en effet à m'accompagner et à fournir les chevaux nécessaires, moyennant une somme assez considérable. M. Chauderlose promit de me donner un interprète et un janissaire expérimenté. Je vis alors que je serais forcé de laisser une partie de mes malles au consulat et de me contenter du plus strict nécessaire. Le jour du départ fut fixé au 4 septembre, c'est-à-dire au surlendemain de mon arrivée à Smyrne. Après avoir promis à M. Chauderlose de revenir dîner avec lui, je me rendis à mon auberge où je trouvai Julien tout établi dans un appartement fort propre et meublé à l'européenne. Cette auberge, tenue par une veuve, jouissait d'une très belle vue sur le port. Je ne me souviens plus de son nom. Je n'ai rien à dire de Smyrne après Tournefort, Chandler, Pessonnel, Dalloway et tant d'autres. Mais je ne puis me refuser au plaisir de citer un morceau du voyage de M. de Choiseul. Les Grecs, sortis du quartier d'Éphèse, nommé Smyrna, n'avaient bâti que des hameaux au fond du golfe, qui depuis apportaient le nom de leur première patrie. Alexandre voulut les rassembler et leur fit construire une ville près de la rivière Mélèse. Antigone commença cet ouvrage par ses ordres et Lysimaque le finit. Une situation aussi heureuse que celle de Smyrne était digne du fondateur d'Alexandrie et devait assurer la prospérité de cet établissement. Admise par les villes d'Ionie à partager les avantages de leur confédération, cette ville devint bientôt le centre du commerce de l'Asie mineure. Son luxe y attira tous les arts, elle fut décorée d'édifices superbes et remplie d'une foule d'étrangers qui venaient l'enrichir des productions de leur pays, admirer ses merveilles, chanter avec ses poètes et s'instruire avec ses philosophes. Un dialecte plus doux prêtait un nouveau charme à cette éloquence qui paraissait un attribut des Grecs. La beauté du climat semblait influer sur celle des individus qui offrait aux artistes des modèles à l'aide desquels ils faisaient connaître au reste du monde la nature et l'art réunis dans leur perfection. Elle était une des villes qui revendiquait l'honneur d'avoir vu naître Homère. On montrait, sur le bord du Mélèse, le lieu où Critéis, sa mère, lui avait donné le jour, et la caverne où il se retirait pour composer ses vers immortels. Un monument élevé à sa gloire et qui portait son nom présentait au milieu de la ville de vastes portiques sous lesquels se rassemblaient les citoyens. Enfin, leur monnaie portait son image, comme s'ils eussent reconnu pour souverain le génie qui les honorait. Smyrne conserva les restes précieux de cette prospérité jusqu'à l'époque où l'Empire eut à lutter contre les barbares. Elle fut prise par les Turcs, reprise par les Grecs, toujours pillée, toujours détruite. Au commencement du XIIIe siècle, il n'en existait plus que les ruines et la citadelle, qui fut réparée par l'empereur Jean Comnène, mort en 1224. Cette forteresse ne put résister aux efforts des princes turcs, dont elle fut souvent la résidence, malgré les chevaliers de Rhodes, qui, saisissant une circonstance favorable, parvinrent à y construire un fort et à s'y maintenir. Mais Tamerlan prit en 14 jours cette place que Bajazet bloquait depuis 7 ans. Smyrne ne commença à sortir de ses ruines que lorsque les Turcs furent entièrement maîtres de l'Empire. Alors sa situation lui rendit les avantages que la guerre lui avait fait perdre. Elle redevint l'entrepôt du commerce de ses contrées. Les habitants, rassurés, abandonnèrent le sommet de la montagne et bâtirent de nouvelles maisons sur le bord de la mer. Ces constructions modernes ont été faites avec les marbres de tous les monuments anciens, dont il reste à peine des fragments, et l'on ne retrouve plus que la place, du stade et du théâtre. On chercherait vainement à reconnaître les vestiges des fondations ou quelques pans de murailles qui s'aperçoivent entre la forteresse et l'emplacement de la ville actuelle. Les tremblements de terre, les incendies et la peste ont maltraité la Smyrne moderne, comme les barbares ont détruit la Smyrne antique. Le dernier fléau que j'ai nommé a donné lieu à un dévouement qui mérite d'être remarqué entre les dévouements de tant d'autres missionnaires. L'histoire n'en sera pas suspecte. C'est un ministre anglican qui la rapporte. Frère Louis de Pavie, de l'ordre des Récollets, supérieur et fondateur de l'hôpital Saint-Antoine à Smyrne, fut attaqué de la peste. Il fit vœu, si Dieu lui rendait la vie, de la consacrer au service des pestiférés. Arraché miraculeusement à la mort, frère Louis a rempli les conditions de son vœu. Les pestiférés qu'il a soignés sont sans nombre, et l'on a calculé qu'il a sauvé à peu près les 2/3 des malheureux qu'il a secourus. Je n'avais donc rien à voir à Smyrne, si ce n'est ce Mélès que personne ne connaît, et dont 3 ou 4 ravines se disputent le nom. Mais une chose qui me frappa et qui me surprit, ce fut l'extrême douceur de l'air. Le ciel, moins pur que celui de l'Attique, avait cette teinte que les peintres appellent un ton chaud, c'est-à-dire qu'il était rempli d'une vapeur déliée, un peu rougie par la lumière. Quand la brise de mer venait à manquer, je sentais une langueur qui approchait de la défaillance. Je reconnus la molle Ionie. Mon séjour à Smyrne me força une nouvelle métamorphose. Je fus obligé de reprendre les airs de la civilisation, de recevoir et de rendre des visites. Les négociants qui me firent l'honneur de me venir voir étaient riches, et quand j'allais les saluer à mon tour, je trouvais chez eux des femmes élégantes qui semblaient avoir reçu le matin leur mode de chez leur roi. Placée entre les ruines d'Athènes et les débris de Jérusalem, cet autre Paris où j'étais arrivé sur un bateau grec et d'où j'allais sortir avec une caravane turque, occupait d'une manière piquante les scènes de mon voyage. C'était une espèce d'oasis civilisée, une Palmyre au milieu des déserts et de la barbarie. J'avoue néanmoins que, naturellement un peu sauvage, ce n'était pas ce qu'on appelle la société que j'étais venu chercher en Orient. Il me tardait de voir des chameaux et d'entendre le cri du cornac.
Fin de la section 14.